Et nous voici réunis pour cette dernière émission de notre série d'émissions politiques, hein, dans le cadre de l'élection présidentielle, avec autour de la table les représentants des candidats à l'élection présidentielle, autour d'un sujet aujourd'hui qui est celui du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce qu'il reste dans le budget des ménages pour consommer des biens et des services. Épargner. D'après l'INSEE, le pouvoir d'achat est en légère augmentation, pourtant de nombreux Français ont le sentiment inverse. Alors est-ce qu'il y a une différence entre le pouvoir d'achat ressenti et le pouvoir d'achat perçu par les Français? Doit-on augmenter les revenus ou faire baisser les prix des biens? Quelles mesures vos partis proposent-ils? Quelle loi TEPA, entre guillemets, pour demain? Voilà les quelques questions auxquelles je vous demanderai de répondre pendant ces 55 minutes. Autour de la table, donc, on va commencer par ma droite.
Marie-Claude Bouissy pour le Front de Gauche et Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Jacques Boyer, je suis porte-parole du groupe local Europe Écologie Les Verts en Tarn-et-Garonne, candidat aux législatives en première circonscription et je représente Eva Joly.
Richard Blanco, porte-parole de Nathalie Arthaud, donc lutte ouvrière pour le département du Tarn-et-Garonne.
Thierry Vialon, responsable du Front National et représentant de Marine Le Pen.
Robert Picard, je suis adhérent du Modem et je représente le Modem et je défends la candidature de François Bayrou.
Damien Hennig, je suis le président des Jeunes Socialistes du Tarn-et-Garonne et je soutiens la candidature de François Hollande.
Benjamin Provost, je suis un militant UMP qui soutient donc la candidature de Nicolas Sarkozy.
Alors, la première question que je vous pose, c'est celle de ce fameux ressenti. L'INSEE nous dit le pouvoir d'achat est en légère augmentation. Et certains d'entre nous ressentent en fait que le pouvoir d'achat est en baisse. Est-ce que il y a une différence entre le ressenti, Marie-Claude Bouissy, et ce que dit l'INSEE?
Oui, il y a certainement une différence puisque l'INSEE prend en compte un certain nombre de produits pour effectivement faire ces évaluations. Ce que les ménages ressentent, c'est sur les produits de consommation courante au quotidien. Or, ces produits de consommation courante au quotidien qui permettent de satisfaire, je rappelle, les droits fondamentaux, c'est-à-dire se loger, se nourrir, pouvoir se soigner, travailler, s'éduquer, les loisirs, tous ces produits-là, effectivement, les Français ont ressenti une baisse de leur pouvoir d'achat et rencontrent de plus en plus de difficultés. Je rappellerai que 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 954 euros par mois. C'est quand même 13,5% de la population. Comment peut-on vivre avec un SMIC légèrement plus de 1 000 euros par mois et un RSA à 400 euros, par exemple, des pensions qui sont à 500, 800 euros, en particulier dans notre région, dans notre département agricole, les pensions des retraités agricoles. Comment peut-on vivre avec tout cela? Comment peut-on satisfaire ces produits fondamentaux? Alors, pour nous, au Front de Gauche, nous disons que la question du pouvoir d'achat, c'est un choix de société. Nous devons assurer les conditions de vie décentes à chacun. C'est le rôle d'un État. Pour cela, un seul moyen, il faut augmenter ce pouvoir d'achat. Pour nous, c'est une question de justice sociale.
Vous nous direz...
Parce que dans le même temps, notre pays n'a jamais été aussi riche. Il n'y a jamais eu autant de richesses. Mais malheureusement, en 30 ans, 10% des richesses produites sont passées du travail au capital. Voilà.
Vous nous direz vos propositions.
Je dirai tout à l'heure les propositions.
Jean-Jacques Boyer, sur cette différence entre... sur le ressenti, en tout cas, du pouvoir d'achat.
Le ressenti, il faut l'entendre. Et ce que vient de dire Marie-Claude Bouissy est une réalité ressentie et perçue par beaucoup de nos concitoyens. Parce qu'effectivement, d'une part, la France, on ne peut pas considérer que la France soit pas un pays riche, hein, même relativement très riche dans le monde d'aujourd'hui. Pour autant, beaucoup de Français sont en grande difficulté. Et je voudrais revenir sur la définition que vous avez rappelée, introduite sur le pouvoir d'achat. Quand vous dites c'est ce qui reste dans le budget pour consommer des biens et épargner, le pouvoir d'achat qui est ressenti, c'est d'abord, ça a été rappelé, pouvoir se nourrir, se loger, se chauffer quand l'hiver, pouvoir éduquer ses enfants, pouvoir se bénir à sa protection de santé et effectivement se faire plaisir. Et donc là, on peut rentrer dans des achats de biens complémentaires. Et donc, pour nous, Europe Écologie Les Verts, se pose derrière cette question de pouvoir d'achat, se pose essentiellement la question de qu'est-ce que c'est que consommer ? Consommer pourquoi ? Qu'est-ce que consommer ? Nous, on dit il faut consommer mieux, sans doute moins, pas de la même manière en tout cas. Et derrière, ça renvoie à une analyse de notre modèle de société. Et donc, derrière la question de la consommation, se pose la question de la production. C'est qu'est-ce qu'on doit produire ? Comment on le produit ? Pourquoi on le produit ? Et le dernier point sur lequel je vais rebondir, c'est quand on parle de revenu, de quoi on parle, hein? Est-ce que c'est exclusivement le revenu salarial, avec tout, et je fais écho à ce qui a été évoqué lors de la précédente émission, hein? Il y a de quoi réfléchir sur aussi comment on obtient, est-ce que le revenu c'est une récompense du travail salarié seulement, ou est-ce que le revenu est un droit pour tous, justement pour pouvoir vivre dans notre société. Ouais, je reviendrai dessus, je pense, tout à l'heure.
Merci Jean-Jacques Boyer pour Europe Écologie Les Verts. Richard Blanco, de Lutte Ouvrière.
Oui, alors concernant le pouvoir d'achat, bon, il faut faire quand même des distinctions. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, pour les plus riches, ben, il se porte bien, et même très bien. Je donnerai juste deux chiffres. Un qu'on a connu récemment, c'est le patron de Publicis, par exemple, qui a bénéficié d'une prime de 16 millions d'euros, soit l'équivalent du salaire d'un couple, de toute une vie. Et deuxième chiffre, c'est concernant le marché du luxe, qui se porte, lui, très 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 bien. On a un groupe comme LVMH, qui, comme Publicis, fait partie des entreprises cotées au CAC 40, les 40 entreprises les mieux cotées. C'est cette année, ça a été 3 milliards de profits. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est en augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Donc, bah oui, ça veut dire qu'il y a des ménages, bah, ils ont une consommation de produits de luxe et celui-là, il s'en ressent. Donc ça, c'est pour les plus riches. Et pour les classes populaires, eh bien oui, le pouvoir d'achat, il se réduit comme peau de chagrin. On subit des augmentations, de l'électricité, du gaz, du pétrole, des produits de première nécessité. Ça grève beaucoup le budget de bon nombre de travailleurs, de retraités, de chômeurs. Et oui, ce qu'il faudrait et ce qui serait nécessaire pour préserver le niveau de vie des classes populaires, eh bien c'est un rattrapage, tout au moins de 300 euros. Nous, on dit qu'il ne faudrait pas avoir un revenu en deçà de 1700 euros net. C'est nécessaire pour qu'on puisse continuer à vivre. Donc ça, évidemment, c'est ce programme-là, nous, ce programme que défend Nathalie Arthaud dans cette campagne-là, on dit que c'est pas avec un changement de gouvernement que ça va changer quoi que ce soit. C'est un programme de lutte qu'il va falloir se défendre, que cela, il va falloir l'arracher. Et l'arracher, effectivement, aux capitalistes, aux banquiers, pour qui, eux, cette crise, elle va très bien. Donc, c'est avant tout cela qui sera déterminant et non pas un nouveau gouvernement qui soit de gauche ou de droite, parce qu'ils serviront toujours les mêmes, les plus riches.
Merci Richard Blanco. Thierry Vialon pour le Front National.
Alors, je crois que, hormis les patrons du CAC 40, M. Blanco a oublié de parler des nombreux élus de la République qui, eux aussi, je pense, font quand même partie des classes favorisées. Il y a qu'à voir les augmentations de salaire, de revenus que s'est octroyé notre président de la République dès son accession au pouvoir. Oui, en effet, cela traduit un profond malaise dans la société française. S'il est bien certain que tout ce qui concerne le pouvoir d'achat ne touche pas les classes favorisées, il en est tout à fait différemment pour les classes moyennes et populaires. Je crois que le ressenti d'une grande partie de nos concitoyens traduit à cet effet une réalité. Et une réalité, je dois dire, qui a été accrue par le passage à l'euro. On a beau nous vanter toutes les vertus de l'euro, n'empêche que, comme je vous le disais, les classes populaires, le français moyen, lui, l'a bien ressenti, le passage à l'euro. Il y a aussi l'immigration, les flots migratoires qui tirent les salaires à la baisse. Donc, je pense là aussi ce que disait M. Blanco, mais notre programme est tout à fait différent, que ce n'est pas quelques mesurettes qui vont changer la donne, il faut un profond changement de politique.
Vous nous direz tout à l'heure
exactement,
quelles seront ces mesures. Robert Picard pour le MoDem, rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît.
Nous considérons que dans le pouvoir d'achat, en fait, il y a deux situations très différentes. Il y a la situation de ceux qui ont un emploi stable, et la situation de ceux qui ont un emploi précaire, aléatoire, ou pas d'emploi du tout. Donc, Dans un cas, on a des statistiques précises, hein, entre l'inflation, on a les revenus, donc on peut bien cerner le problème. Dans un autre cas, et c'est certainement le cas le plus difficile, c'est le cas de ceux qui ont des problèmes pour s'insérer dans l'emploi. Donc il faut parler des jeunes, hein, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Aujourd'hui, c'est très difficile pour eux. Donc, est-ce que et on n'a pas d'outils, de mesures pour comparer comment, dans les années 80, 90, 2000, 2010, on rentrait dans le marché du travail, comment on arrivait à s'établir, faire des projets de vie, donc trouver un emploi stable, hein, avec une progression de carrière qui permet de prévoir un avenir. Et donc, même si on n'a pas de statistiques, on peut, tout le monde sera d'accord là-dessus, s'accorder sur le point qu'il y a une dégradation très très importante de ces conditions de vie. Et donc, pour nous, au MoDem, c'est sur ces gens-là, sur les jeunes qui veulent entrer sur le marché du travail, et aussi pour ceux qui ont perdu leur emploi, et qui doivent revenir dans un emploi stable. Donc c'est sur ces deux catégories de personnes qu'en priorité, on doit porter nos efforts, même si dans l'emploi salarié, il y a aussi des problèmes de pouvoir d'achat.
Merci Robert Picard pour le MoDem. Damien Hennig pour le Parti Socialiste et PRG.
Écoutez, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle quand même du quotidien des Français, c'est-à-dire ce qu'il y a à la fin du mois dans le portefeuille. Et il est fort de constater quand même que depuis 5 ans, le portefeuille des Français s'est quand même fortement réduit. Il faut se rappeler aussi, tout le monde le sait autour de cette table, qu'il y a 5 ans, à cette même date, il y avait un candidat qui disait qu'il était le président du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, il nous avait vanté son slogan devant des millions de Français, « Travailler plus pour gagner plus ». Fort de constater que beaucoup de Français ont travaillé, voire même travaillé plus, pour avoir encore moins. Alors les chiffres sont là aussi. Moi, c'est les chiffres de l'INSEE que tout le monde peut aller observer. Entre 2008, alors j'ai les chiffres de 2008-2010, de voir que l'évolution de la dépense et du pouvoir d'achat des ménages n'a que très peu augmenté. Pour vous dire à peu près, grosso modo, à 2008, l'évolution était de 0,4%. Le pouvoir d'achat, 2009 1,3, enfin 2010 0,8, en tout cas c'est une petite progression, alors que à des périodes précédentes que la droite nous a souvent attaqué, c'est-à-dire entre 97 et 2002, le pouvoir d'achat lui tournait en une évolution autour de 3%. Donc il faut voir que la politique menée a une grande part de responsabilité dans la situation actuelle de ce pouvoir d'achat qui ne progresse pas. Les prévisions de l'INSEE au début de l'année, voire même un recul du pouvoir d'achat de 0,3% au début de cette année. Alors, peut-être que le représentant de l'UMP nous en dira plus sur les mesures que prône le président de la République, mais il parle déjà de modifier le versement des pensions au premier de chaque mois au lieu du 8. On voit que c'est quelques mesurettes. En plus, par ailleurs, notre département n'est pas forcément bien loti, puisque c'est un des plus pauvres et au niveau financier, que le taux de chômage est un des plus élevés. Mais je reviendrai aussi par ailleurs sur les propositions de François Hollande. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a quand même autour de cette table, on pourrait dire, deux supercheries. Je vais m'expliquer. Une supercherie ouverte, celle défendue par le président sortant, qui fait fi de ne pas avoir de bilan. J'espère qu'ici, on nous parlera de son bilan, puisqu'il n'en parle jamais. Ou il va nous ressortir de nouvelles mesures comme si rien n'avait été fait. Et puis, nous avons aussi, autour de la table, quelqu'un qui... des propositions qui ne sont pas aussi, qui sont un peu cachées, qui ne sont pas dites, mais c'est celle du Front National, défendue par Madame Le Pen, qui se déclare être la candidate des invisibles. On ne sait pas ce que ça veut dire être invisible. Mais bon, moi j'ai envie de dire au Front National, elle parle très bien des invisibles, mais où était Marine Le Pen quand les ouvriers, les salariés ont manifesté pour défendre les retraites? Parce que quand on parle de retraite, on parle aussi de pouvoir d'achat à la fin du mois. Donc le Front National n'était pas là. J'espère que tout ça va être développé par la suite.
Merci Damien Hennig pour le PS. Benjamin Provost pour l'UMP, vous pouvez déjà répondre sur ce que vient de vous dire Damien Hennig, et puis sur le fameux ressenti quand même, hein, de ce pouvoir d'achat.
Alors d'abord, je voudrais remercier chaleureusement Monsieur Hennig d'avoir commencé le travail, effectivement, puisqu'il a rappelé Et je suis sûr que ça ne lui a pas échappé, mais le monde entier, la France n'a pas été épargné, a connu une crise sans précédent dans l'histoire et qui a rendu la tâche extrêmement difficile pour tous les dirigeants des pays occidentaux en particulier, dont fait partie la France. Et malgré ça, la France a tenu. Puisque elle s'en est même mieux sortie que les autres. Elle a tenu parce que son régime de protection sociale est solide, parce que les mesures de solidarité qui ont permis d'atténuer les conséquences de cette crise pour les plus vulnérables ont été prises, et parce qu'elle a commencé à engager, avant la crise d'ailleurs, des réformes structurelles de son économie, ce qui donne les résultats que vous avez cités, je vous en remercie, de l'INSEE, qui montre qu'effectivement, la France est le seul pays occidental où le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Alors on va pas fanfaronner, parce que, et puis en plus, on parle de ressenti, on parle de difficultés que des gens malgré tout ont connu. Il y a des gens qui sont dans une grande difficulté, des produits de consommation quotidienne qui ont effectivement augmenté et qui rendent la vie de beaucoup de gens difficile. Et c'est pas par simplement l'énumération d'un certain nombre de chiffres de l'INSEE qu'on va se gargariser de la bonne santé relative de l'économie française. On va continuer évidemment par la suite à développer les mesures des différents candidats. Je vais certainement terminer encore une fois en vous disant à quel point je suis flatté d'entendre parler de supercherie de la part de spécialistes, et je regrette que Madame Rabault soit pas là ce soir aujourd'hui pour en parler. Puisque à l'heure où François Hollande a désigné le monde de la finance, de la haute finance, comme l'ennemi juré et le diable en personne, je crois que d'avoir un trader autour de cette table pour nous parler des difficultés, notamment de la spéculation sur les matières premières dans le monde, qui contribue grandement à l'augmentation des prix de certaines denrées courantes, ça aurait été vraiment très appréciable d'avoir une spécialiste autour de cette table.
Alors, vous êtes bien à l'écoute des programmes de CFM. Cette émission politique est diffusée le mardi soir entre 19h et 20h et rediffusée le dimanche. Mais vous comprendrez bien que pour cette fois, elle ne sera pas rediffusée le dimanche, puisque à la même heure, eh bien, il y aura le premier tour de l'élection présidentielle. On va maintenant parler de vos mesures aux uns et aux autres. On commence par vous, Marie-Claude Bouissy.
Oui, alors moi, je voudrais quand même répondre à ce que je viens d'entendre. La crise est la bonne dos. Elle a bon dos parce que, en temps de crise, il n'y a jamais eu autant de richesses que se sont partagées les grandes sociétés, les grandes entreprises, les actionnaires. Par exemple, en 2011, 210 milliards d'euros ont été distribués aux actionnaires, alors que seulement 190 ont servi à l'investissement. Plus de la moitié des richesses produites servent à la spéculation. Les entreprises du CAC 40 ont réalisé 73 milliards d'euros de profits en 2011, en pleine crise. Un patron du CAC 40 peut gagner en un jour ce qu'un smicard gagne en un an. Leur rémunération moyenne des patrons du CAC 40 a progressé de 34% en 2010 en pleine crise. Alors la crise, elle a bon dos. Hein. Donc cette crise, et j'en profite pour dire que Sarkozy qui prétend nous protéger de la crise, nous protéger aussi de l'austérité, en nous disant, voyez, on serait sinon dans la situation de la Grèce. Je dois dire que c'est une falsification complète, puisque on nous demande de rembourser une dette qui n'est pas la nôtre. C'est la dette de la spéculation, c'est la dette des marchés financiers. Ça n'est pas la nôtre, cette dette. Et on en profite pour imposer des mesures d'austérité au peuple. Et M. Sarkozy s'est engouffré là-dedans à fond. Les mesures d'austérité, nous en avons eu de petites déjà, mais quelques-unes quand même, parce que nous sommes en période électorale, il ne faut pas se faire d'illusions. S'il est réélu, elles vont tomber et nous serons très vite au niveau de la Grèce.
Marie-Claude Bouissy, quelles
sont
les mesures
proposées? Les mesures, nous disons que
par le front de gauche,
il est urgent de revaloriser le SMIC. Nous proposons le SMIC à 1 700 euros brut tout de suite et net dans 5 ans. Un salarié sur 10 en bénéficierait. Nous proposons la revalorisation globale de l'ensemble des salaires, avec une grille de salaire allant de 1 à 20, pas plus, et un maximum de 36 000 euros par mois, parce que nous considérons que c'est largement suffisant pour vivre. Nous proposons de lutter contre les emplois précaires, avec progressivement la disparition des CDD et tous les contrats précaires, au profit du CDI qui doit devenir la norme. Nous proposons la revalorisation des indemnités chômage des retraites, et des retraites, la revalorisation des minima sociaux. Alors, comment arriver à tout cela? Comment financer tout cela? Alors, la première chose, c'est d'une part, d'aller chercher l'argent là où il est. L'argent, il est au niveau des entreprises. Nous proposons de réduire les dividendes versés aux actionnaires, surtout dans les entreprises. Nous proposons également de remplir les caisses de l'État, pour financer les minima sociaux et les retraites, en supprimant les exonérations de cotisations sociales patronales, cela représente 30 milliards par an, en appliquant l'impôt sur les sociétés à toutes les sociétés, puisque un très grand nombre en sont exonérés, 71 milliards d'euros par an, taxer les revenus financiers des entreprises de 20 milliards par an, supprimer les niches fiscales, alors supprimer, on en parlera peut-être tout à l'heure de la loi TEPA, supprimer tout ce que contient la loi TEPA, en particulier les niches fiscales, cela rapportera à l'État 80 milliards d'euros par an, taxer les transactions financières, 6 milliards d'euros par an. Nous proposons également 9 nouvelles tranches d'impôt sur le revenu, 20 milliards d'euros par an, et taxation aussi de tous les revenus à 100% au-dessus de 360 000 euros par an. Alors cela, l'objectif étant, d'une part, de remplir les caisses de l'État pour pouvoir financer les retraites, la sécurité sociale, les minima sociaux, et ensuite, au niveau des entreprises, une autre fiscalité sur les entreprises, de manière à ce que les profits, ces énormes masses de profits réalisées dans les entreprises, servent à l'augmentation des salaires, à la création d'emplois, à la modernisation de l'outil de travail, en l'occurrence à l'augmentation des salaires. Si on ne va pas chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des actionnaires, pour rééquilibrer et répartir autrement les richesses, on n'y arrivera jamais. Donc il est tout à fait possible de mettre le SMIC dans ces conditions à 1700 euros.
Merci Marie-Claude Bouissy. Jean-Jacques Boyer pour Europe Écologie Les Verts.
Alors, je pense que quelque part la marque de fabrique des écologistes, c'est d'avoir une analyse de la crise qui est, avant de dire que c'est une crise financière, économique, mon Dieu, elle nous tombe dessus, sur la tête, c'est avant tout de regarder la réalité de la crise systémique du système dans lequel on est. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, que ce soit au niveau financier, au niveau économique, mais aussi au niveau, il ne faut pas l'oublier, hein, au niveau écologique, les dérèglements climatiques, la limitation des ressources naturelles, sans parler de tout ce qui est matières premières rares, là, on y est. Et raisonner uniquement dans notre espace national, on peut se fermer, comme certains le proposent, mais on ne résoudra pas le problème ici. Donc, notre marque, elle est là, c'est faire une analyse systémique, rappeler qu'on n'a qu'une planète et que tel que l'on vit aujourd'hui, chez nous en France, en Europe dans le monde occidental d'une manière très large, la Terre ne peut pas, la planète ne peut pas la supporter. Donc, on peut dire il faut que les écologistes ont cette particularité d'être, on dit souvent pragmatique, mais c'est cette analyse de système qui est importante. Et donc, c'est d'aller dans un processus de transition, parce que le grand soir, les mesures magiques, on n'y croit pas. Hein. En revanche, on a une vraie préoccupation, c'est que ensemble, tous ensemble, on puisse définir ensemble qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire société, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre mieux. Et c'est vraiment dans ce sens-là que se doit se reposer les aspects donc de revenus. Est-ce que le revenu doit être uniquement assis sur un emploi salarial? Je pense que c'était le débat de l'autre jour, mais il est évident qu'on peut dire, on peut courir vers plein emploi, plein emploi, plein emploi, mais le monde d'aujourd'hui ne le résoudra pas. Donc c'est vraiment dissocier revenus, activité, emploi, et retravailler sur qu'est-ce que c'est qui fait qu'on ensemble va faire société.
Donc pour vous, à Europe Écologie Les Verts, le pouvoir d'achat ne va pas augmenter juste après l'élection présidentielle, même si Eva Joly est élue présidente de la République.
Il n'y a pas de baguette magique. Il faut arrêter de raconter des histoires. Les écologistes ne racontent pas d'histoires en général.
Richard Blanco pour Lutte Ouvrière.
Alors, ce que je vous tenais quand même à dire, c'est effectivement par rapport au bilan de Sarkozy, hein, qui s'était présenté comme le candidat du pouvoir d'achat. Hein, donc, son slogan, c'était travailler plus pour gagner plus. Bah, effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a 1 million de chômeurs de plus. Hein, c'est-à-dire que, et puis on voit les prix qui flambent. Donc son slogan de campagne, hein, il pourrait se résumer aujourd'hui à son bilan. Hein, son bilan, ça pourrait être effectivement travailler moins, hein, pour dépenser plus. Alors, concernant le programme, nous, le programme qu'on défend, c'est ce que j'ai dit, c'est un programme de lutte. C'est-à-dire que, c'est pas un changement de gouvernement qui va changer fondamentalement la donne. Parce que les gouvernements ne sont ni plus ni moins les états-majors, des capitalistes et des banquiers. Et on aura beau le peindre en rose ou en bleu, ça n'y changera rien. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est effectivement pour protéger le monde du travail, c'est interdire les licenciements, c'est arrêter d'ajouter des chômeurs aux chômeurs, c'est effectivement d'augmenter les salaires et les pensions, et aussi de les indexer sur les prix. C'est ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires et des pensions. Parce que dès que les prix, faire en sorte qu'il y ait un mécanisme, dès que les prix augmentent, il faut que les salaires augmentent de la même façon. Et cela est nécessaire. Alors quand on dit que c'est un programme de lutte, ça veut dire que on ne pourra l'arracher que à ceux qui détiennent les grands moyens de production, c'est-à-dire les grandes entreprises. Et donc cela, il faudra les mener ces luttes. Et nous, notre programme, il a cette particularité, c'est que aussi vite l'élection terminée, c'est qu'il est encore possible et toujours de l'appliquer.
Merci Richard Blanco, Thierry Vialon du Front National.
Alors tout d'abord, je fais un petit aparté pour répondre à Monsieur Hennig.
Faites-le rapidement, parce que si tout le monde se répond.
C'est quand même un peu fort, je trouve, quand il dit que Marine Le Pen n'est pas aux côtés des travailleurs. Si, elle y est. Elle est devant les usines. Seulement, il est vrai qu'on ne bénéficie pas de la force médiatique de l'UMP, du PS, de Monsieur Mélenchon. Ça, c'est une certitude. Mais croyez-moi, nous y sommes à côté des travailleurs.
Pour ce qui est de
l'imposture, la fameuse imposture, je crois qu'en effet, vous avez tout à fait raison, elle est autour de cette table. Mais c'est pas le Front National, l'imposture. C'est l'UMPS et ses satellites. J'en veux pour témoignage cette soirée organisée cette semaine par le MEDEF, où étaient présents ces deux partis, représentés par mesdames Rabault et Barège. Il y avait aussi le MoDem. Les supplétifs du PS, certes, n'étaient pas là, mais comme je dis, ce sont des supplétifs, effectivement, puisqu'on sait que au soir du premier tour, ils appelleront à voter Hollande. Et là, à la question, au thème imposé par le MEDEF, qui était « Vers des États-Unis d'Europe », alors là, je dois dire, ça a été un engouement généralisé, allons-y à fond dans la mondialisation. Eh bien, je crois que la pierre angulaire du problème du pouvoir d'achat repose justement sur cette mondialisation. Nous ne sommes pas armés pour lutter face à des Chinois qui sont payés en monnaie de singe, j'ai envie de dire, où on ne respecte aucune norme environnementale, sociale. Je crois qu'il faut revenir là-dessus.
Enfin, les Français n'attendent pas des incantations, ils attendent des mesures concrètes.
Mais nous le ferons, croyez-moi. Les incantations, alors parlons-en, entre la gauche et la droite, les incantations, on en a entendu beaucoup, pour peu d'effets, et cela depuis 30 ans. Donc je pense qu'il faut lutter contre cette mondialisation, en rétablissant notre souveraineté monétaire, et en instaurant des protections intelligentes aux frontières. Et, ceci afin de réindustrialiser notre pays. Ça c'est la mesure principale. Hormis cela, il faudra aussi, je pense, entreprendre une réforme fiscale en réintroduisant la progressivité dans les différents impôts. Il faut aussi lutter contre la hausse du coût de la vie, interdire les ententes illicites qui favorisent les abus de position dominante, je parle notamment là des centrales d'achat. Je pense aussi il faut réinstaurer des contrôles sur les grands services publics commerciaux qui concernent la distribution d'énergie, pour les transports aussi, contrôler les tarifs et imposer des tarifs plafonds. Il faut aussi revaloriser les revenus salariés, que ce soit dans le privé et dans le public. Alors je veux dire, dans le public, là, on s'intéressera surtout aux salaires les plus faibles, les grands fonctionnaires d'État n'ayant pas la même nécessité que les plus petits revenus, et revaloriser aussi les pensions.
Merci Thierry Vialon. Robert Picard pour le MoDem.
Oui, donc pour nous, pour François Bayrou, la solution aux problèmes les plus préoccupants sur le pouvoir d'achat que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la solution, c'est l'emploi. L'emploi Et ce n'est pas n'importe quel emploi. L'emploi de production, et l'emploi en général, et l'emploi de production industrielle en particulier. Donc, si on a la chance de rentrer dans une entreprise industrielle montalbanaise pour revenir à quelque chose de concret qui touche les gens que nous connaissons, on peut aujourd'hui avoir un CDI quand on est un jeune. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, des doctorats en physique ou en mécanique. Avec un bac professionnel, on peut obtenir ça aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, la solution pour François Bayrou, c'est qu'il faut multiplier ce genre d'emploi. Donc, l'emploi industriel. Alors, il faut que, pour obtenir ça, il faut quand même abattre quelques idées fausses, quelques idées reçues, complètement fausses. Et ces idées reçues complètement fausses, je viens d'en entendre encore une troisième, puisqu'il y en avait déjà deux que j'avais entendues en peu de temps, ici, à Montauban. Alors la première, c'est au cours du dernier débat qui s'est déroulé ici, et un intervenant nous a expliqué que dans une quinzaine d'années, avec l'évolution de la robotique, on remplacerait petit à petit tous les employés et qu'il n'y avait pas de solution pour l'emploi. Il n'y avait pas d'avenir pour l'emploi. Alors, quand on entend des choses comme ça, ben, les bras nous en tombent. Moi, je voudrais lui dire la robotique, elle est présente depuis très longtemps dans toutes les entreprises, dans la plupart des entreprises du Tarn-et-Garonne et de France et du monde. Et des emplois, il y en a. Et des emplois où il faut donc gérer cette robotique. Hein. Il faut la concevoir, il faut la fabriquer, il faut la maintenir en état, il faut gérer la qualité.
Elle est fabriquée en Chine, la robotique. C'est bien ça le problème.
Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Laissez-moi parler. Moi, je ne vous ai pas interrompu, alors vous me laissez parler. Il y a en France des entreprises comme Schneider qui fabriquent la quasi-totalité des composants, des systèmes automatisés.
Robert Picard, de la robotique. Venez-en quand même aux mesures du modem, puisque c'est ça l'idée du tour de table pour qu'on puisse avancer.
Oui, mais ça fait partie de ce qui aujourd'hui pose un problème à la réindustrialisation de la France. Et c'est le problème central. Donc, quand on dit ça, on tire contre son camp. La deuxième chose, j'ai entendu,
les mesures.
C'était donc au débat du MEDEF. Donc, un candidat de l'UMP nous a expliqué qu'il était stupide de vouloir concurrencer la production chinoise. Vu les coûts de production, c'est impossible. Le représentant du Front National vient de nous dire la même chose. Alors moi, je voudrais vous dire que vous pouvez aller aujourd'hui dans une grande surface, ici, en sortant. Vous allez au rayon des fers à repasser. Et vous allez avoir un étalage de 20 modèles. Sur ces 20 modèles, vous allez en trouver deux qui sont de marque SEB et qui sont fabriqués en France. Donc, ils sont au même prix que tout le reste du rayon, qui est chinois ou indonésien. Donc c'est possible. C'est pas une entreprise, c'est pas un petit atelier pourri. C'est une grande entreprise qui s'appelle SEB. Et ces gens-là, on n'a pas le droit de leur tirer dessus en disant que leur travail, c'est impossible de conserver.
Robert Picard, je suis obligé de faire tourner la parole.
Écoutez,
ça fait super longtemps que vous êtes au micro.
Je n'ai pas monopolisé la parole.
Un peu, hein,
écoutez, donc je vais. Le pouvoir d'achat, c'est l'emploi.
Je vous laisse encore 20 secondes, et après on donne la parole à Damien Hennig.
Je voudrais vous dire donc que la solution pour François Bayrou, c'est de prendre, comme nous avons une filière de la pomme ici en Tarn-et-Garonne, où on produit de la pomme, on a des entreprises qui conditionnent ces pommes, qui mettent de la valeur ajoutée grâce à quoi ? Grâce à la robotique, grâce aux technologies. Cette filière, elle est un exemple de ce qu'il faut multiplier. Et François Bayrou, il veut, pour résoudre les problèmes de pouvoir d'achat, multiplier cet exemple avec la filière bois, avec d'autres
ça filières. Tourne Robert Picard, je suis désolé.
C'est correct, on a respecté chacun un temps de parole là, sur hors sujet, vous avez eu 20 minutes. Alors allez, moi je ne suis pas d'accord avec ça.
J'ai eu 5 minutes. Oui.
Vous avez été un petit peu long, Robert.
Moi, je vais brièvement répondre à Monsieur Vialon. Écoutez, on verra dimanche au sort du premier tour. Sans doute que, effectivement, nous n'aurons aucun scrupule de gouverner avec le Front de Gauche, qui ramènera certainement les ouvriers, plutôt que vers vous. Mais bon, concernant l'UMP, nous ne sommes pas sûrs...
J'avais peur d'être oublié, là. Mais
je vais aller très vite, ne vous inquiétez pas. Ah ben, je me doute pas, mais... On ne serait pas étonné que le débat volerait plus haut de la part de l'UMP, puisqu'on attaque les personnes. Vous parlez de Mme Rabault. Mme Rabault, elle est sur le terrain.
Elle va voir. Je regrette juste qu'une spécialiste de la finance internationale puisse pas répondre à ce genre de problématique. Écoutez, ça aurait été vraiment l'occasion ou jamais.
Non. Bon, vous parlez de Mme Rabault. Où est Mme Barège? Mme Barège qui a voté depuis 5 ans toutes les mesures les plus antisociales et a donné encore plus à ceux qui ont déjà beaucoup. Mais bien sûr que si, mais vous le savez très bien, mais les électeurs le seront au moment venu. Revenons sur les propositions. Effectivement, je pense que de toute manière,
parlez des vôtres.
Oui.
Damien,
alors écoutez.
Vous allez finir par voter Sarkozy, me parle.
Certainement pas, non. Écoutez, nous avons un projet qui a été présenté aux Français depuis très longtemps. Le vôtre, nous ne le connaissons pas.
Il a changé de
François Hollande a le seul projet le plus crédible pour la France. Il faut savoir le dire. Et puis, il a même été encore plus loin, parce que nous avons dit ce que nous ferons dès la première année, dès l'élection, dès le mois de juillet. Nous attendons les vôtres. Les propositions de François Hollande sont concrètes. Il veut déjà plus de justice, ce qui n'a pas été le cas depuis 5 ans. Et notamment concernant le SMIC, puisque le SMIC, c'est l'argent, c'est ce qui sera dans le porte-monnaie des Français concernant le SMIC. Et nous indexerons le SMIC sur la croissance. Puisque vous prenez l'austérité, nous ferons la croissance. Et nous mettrons le SMIC par rapport à l'inflation. Par rapport aussi, et je reviens à ce qui a été dit pour le Front de Gauche, nous aussi, nous défendons des écarts de rémunération qui soient corrects, de 1 sur une échelle de 1 à 20, un écart maximal, parce que c'est indécent, ces salaires.
Maximal, pardonnez-moi.
Donc,
un
écart maximal de rémunération. Non, pas du tout. Pour les dirigeants d'entreprise. Enfin, et des mesures concrètes. Nous augmenterons de 25% l'allocation scolaire dès la rentrée, puisque vous ne faites rien pour les familles. Nous allons reprendre le relais et permettre, l'allocation de retrait scolaire sera quelque chose de concret dans le portefeuille des Français à la destination des familles et des plus jeunes, puisque la jeunesse, nous en faisons quelque chose de concret. Nous ne prenons pas un emprunt pour aider les jeunes. Nous leur donnons de quoi directement s'en sortir. Enfin, face à la montée aussi du cours de pétrole, puisqu'on parle de l'essence, qui est aussi une dépense qui est incompressible, nous allons plus loin. Nous demandons le blocage des prix et des carburants pendant 3 mois. Et nous allons introduire une TIPP flottante, indexée sur les cours du pétrole. Puisque quand même, tous les Français mettent de l'essence dans leur voiture. Et ça, ce sont des mesures concrètes. Et puis, il y en a plein d'autres. Nous allons effectivement refaire une grande réforme fiscale. Une réforme juste. C'est-à-dire faire contribuer ceux qui ont déjà beaucoup. Et permettre aux plus modestes de mieux s'en sortir. Puisque depuis 5 ans, les plus fortunés, bouclier fiscal, paquet fiscal, tout ça a été donné à un certain nombre au détriment des plus faibles, puisque le pouvoir d'achat, notamment pour la crise, le pouvoir d'achat, lui, n'a pas baissé pour les plus fortunés, alors qu'on sait très bien que pour les plus faibles, la crise, eux, ils l'ont senti de plein fouet. Et puis, bien sûr, nous mettrons aussi bien sûr la jeunesse, puisque François Hollande mettra la jeunesse au cœur de ses préoccupations, qui a été délaissée depuis 5 ans. La jeunesse la plus précarisée, la plus pessimiste d'Europe. Votre bilan, c'est aussi ça. Et donc, nous créerons les contrats de génération qui permettront à un jeune de rentrer directement dans l'entreprise aidé par un ancien pour un vrai CDI et non pas les contrats précaires que vous nous avez mis en avant depuis 5 ans. Et puis, nous défendrons aussi... Nous mettrons en place une allocation d'études pour aider les jeunes dans leur parcours et leur cursus scolaire. Vous voyez donc que le candidat crédible, c'est François Hollande, c'est nous. Nous avons un projet, nous attendons toujours le vôtre. Il serait peut-être temps avant le premier tour de le donner, mais de toute manière, je pense que les Français ne seront pas dupes et sauront faire le bon choix dès le premier tour.
Benjamin Provost pour l'UMP, s'il vous plaît.
Je vais vous en faire cadeau en partant. J'ai ici une synthèse des propositions du candidat, donc je serais ravi que vous puissiez en prendre connaissance. Vous auriez pu éventuellement peut-être le regarder, mais je crois que vous êtes quand même plus au courant que vous avez l'air de le dire. Alors j'aurais aimé pouvoir répondre un peu à tout ce qui a été dit. puisque beaucoup de choses, beaucoup de contre-vérités en particulier ont été dites, beaucoup d'incantations. Enfin, on voit de toute façon encore la démonstration que nos adversaires, en particulier notre adversaire socialiste. D'ailleurs, j'en profite pour faire une très courte parenthèse, Monsieur Vialon. Vous disiez que le Front de Gauche, notamment, appellerait dès le soir du premier tour à voter François Hollande. Permettez-moi d'en douter quand je vois les grandes différences qu'il peut y avoir. Je ne parle même pas des problèmes de personne, mais grandes
les
différences qu'il peut y avoir.
Les ressemblances entre vous et le Front National sont assez importantes, puisque le Front National roule avec vous depuis un certain temps et reprend le parti
de proposition. Si vous pouvez me laisser juste terminer, même si ça vous dérange. Mais vous parliez notamment, Madame Bouissy, de la taxation des revenus du capital. Alors pourquoi les socialistes n'ont-ils pas voté l'alignement entre les revenus, la taxation des revenus du capital et ceux du travail que notre majorité a voté? C'est une des questions, avec tant d'autres, qu'il va falloir essayer de régler. Franchement, je vous souhaite bien du plaisir. Je ne parle même pas des sujets qu'il va falloir aborder avec les alliés écologistes entre les deux tours. C'était vraiment une courte parenthèse. Pour dire simplement qu'effectivement, encore la démonstration que nos adversaires n'ont que deux propositions. Défaire ce qui a été fait, y compris notamment la défiscalisation des heures supplémentaires qui a profité à plus de 9,5 millions de salariés et dont tous les chefs d'entreprise qu'on peut rencontrer dans le département nous disent que ça a été une mesure qui a permis d'augmenter le pouvoir d'achat et de dynamiser l'économie. Augmenter la dépense publique avec les emplois aidés, avec les embauches pléthoriques de fonctionnaires. Mais ça, effectivement, M. Hollande a l'habitude, puisqu'on a vu ce qu'il a fait au Conseil général de Corrèze et comment il a fait en sorte
Heureusement que les collectivités locales étaient là pour pallier à la crise. Les collectivités locales gérées par la gauche qui ont su...
Damien Hennig, s'il vous plaît, on ne va pas à chaque fois...
Oui, les collectivités locales, nous pourrions en reparler, effectivement. D'ailleurs, le président Sarkozy propose de faire en sorte que leur gestion soit effectivement aussi saine que celle de l'État. Alors, je vais en venir simplement aux propositions, parce qu'encore une fois, j'aurais aimé pouvoir répondre à tout le monde, mais je n'en ai pas le temps, hélas. Donc, simplement, il faut voir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement le niveau national, donc les leviers qu'on peut actionner ici. Ça commence en France par poursuivre cette vertueuse trajectoire de réduction du déficit qu'a entamé la majorité et Nicolas Sarkozy depuis le début de la crise. D'ailleurs, on a vu récemment que les objectifs dont François Hollande disait d'ailleurs pendant les débats du budget 2011 qu'ils étaient inatteignables, il s'agissait en l'occurrence de 5,7% du PIB pour l'année 2011, ont été non seulement remplis mais en plus dépassés, puisque aujourd'hui on a un déficit public qui atteint 5,2% du PIB. Donc par la réduction du déficit, on mettra les conditions...
Cette dette était légitime, hein.
On parle de déficit, Madame Moussier, pardon.
Le déficit,
une exactitude.
Endettement que vous avez creusé en 5 ans.
Vous, à deux pour me couper la parole, ça fait beaucoup, peut-être.
Allez-y, Benjamin Provost.
Sur le bilan, effectivement, la défiscalisation des heures supplémentaires. La réforme des retraites aussi a permis de sauver, quand même, notre modèle social auquel on est, je crois, tous attachés autour de cette table.
Et donc de continuer. Sarkozy n'a eu de cesse de le démolir, ce modèle social.
Non, il l'a sauvé, madame, je pense que vous n'avez pas dû être très attentive à ce qui s'est passé ces dernières années.
Est-ce que ces mesures vont se poursuivre, donc, dans le prochain quinquennat?
Quelle mesure? Mais bien sûr, c'est l'objectif. Alors, l'objectif, encore une fois, l'austérité, vous faites bien de le dire. Puisque l'austérité, ça n'est pas l'austérité. Regardez ce qui se passe en Grèce, en Espagne et au Portugal. La suppression des primes de naissance en Espagne, le gel des allocations familiales, le fermeture du bloc autoritaire en Espagne, la baisse des pensions de retraite, etc., etc. La liste est longue. Simplement, je me recentre.
Si on ne remet pas en cause le comportement des marchés financiers, on ne pourra rien changer et on sera embarqué.
Eh bien, écoutez, si vous dites comme Lionel Jospin à l'époque qu'on ne peut rien faire à ce moment-là, ne briguez pas des mandats à responsabilité.
Stop. Je sens que ça va partir n'importe comment. Benjamin Provost, quelles sont les mesures? Je sais, il y en a une, on en parle tous les jours.
Les mesures,
l'augmentation des salaires à moins de 1400 euros, par exemple.
Alors, une des mesures structurelles et immédiates que Nicolas Sarkozy propose, c'est effectivement d'augmenter le salaire net des 7 millions de salariés qui gagnent entre 1000 et 1400 euros net, notamment grâce à l'intégration à leur fiche de paie de la prime pour l'emploi, et permettre ainsi une revalorisation de l'ordre de 440 euros net par an au niveau du SMIC. Et c'est là en même temps que le maintien de la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais ça n'est pas tout, parce qu'un des postes qui grève le pouvoir d'achat des Français, c'est aussi le logement. Et on l'a vu, c'est une mesure qui a été votée d'ailleurs avant la fin de la session parlementaire. Accroître de 30% les trois prochaines années les droits à construire pour augmenter l'offre de logement et ainsi mécaniquement faire baisser les prix. Mais encore une des dernières mesures, parce que je reviendrai, on aura peut-être l'occasion, j'espère, de revenir sur les mesures en faveur de l'emploi, puisque Monsieur Picard l'a dit, la croissance et donc le pouvoir d'achat ne reviendra qu'à condition que la compétitivité de la France et le déficit soit comblée, on l'a déjà dit, mais que la compétitivité de nos entreprises qui produisent de la richesse est arrêtée par pitié de, d'opposer les riches contre les pauvres. Enfin, franchement, il n'y a pas.
Non, c'est mais vous juste.
La France, les Français, nous sommes tous des concitoyens, nous nous aimons pour ça. Nous sommes dans la fraternité. Voyons, il n'y a pas les riches contre les pauvres. Voilà. Donc arrêtez, s'il vous plaît, ce genre de chasse aux sorcières, c'est insupportable. Et donc, la confirmation du choix du nucléaire, voilà aussi une mesure, une confirmation qui permettra de maintenir le pouvoir d'achat des Français, puisque l'énergie, on sait que c'est un poste de dépense important. On sait aussi que pour les entreprises et permettre leur compétitivité, le nucléaire, ça permet d'avoir une facture d'électricité quand même de l'ordre de 30 à 40% moins chère que celle de certains de nos, la plupart de nos compétiteurs. Mais c'est pas tout. L'allègement des charges pour les entreprises permettra également de dynamiser l'emploi, de faire revenir la croissance. Et vous parliez, je terminerai là-dessus, peut-être Monsieur Blanco, je vois que tout ça vous amuse beaucoup. Je terminerai pour dire simplement qu'encore une fois sur les riches, heureusement qu'on a des entreprises aussi comme LVMH qui permettent de dynamiser un tant soit peu notre exportation, puisque ça contribue également à la croissance et au retour de la croissance, et tout cela en faveur du pouvoir d'achat des Français. Tout n'a pas été fait. Les Français ont été protégés. Aucun Français, notamment au début de la crise, n'a perdu le moindre centime dans la crise financière. Et ça, on le doit, je crois, à la réactivité et la capacité de prise de décision de nos dirigeants. Le pouvoir d'achat, s'il n'a pas augmenté, a été malgré tout maintenu. Des mesures structurelles de profondeur de notre système, comme vous en parliez tout à l'heure, Monsieur Boyer, ont été prises pour préparer l'avenir. Également, lors de la crise, le grand emprunt et le plan de relance a été mis en place. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, Madame Aubry, aujourd'hui dans le Figaro, on annonçait qu'elle est le prochain Premier ministre. J'en suis ravi. Les postes sont déjà distribués. Mais en tout cas, à l'époque, je me rappelle très bien qu'elle préconisait une relance de la croissance par la consommation. On savait déjà que ça marchait pas. Les rares pays qui ont essayé de le faire, l'Espagne, l'Angleterre, l'ont donc mis en place, et il n'a pas fallu plus d'un an et demi pour voir que leur économie s'est effondrée. À l'inverse, Nicolas Sarkozy et le gouvernement ont préconisé une mesure de relance par l'investissement. Ça prépare demain, avec aussi pour les entreprises la mise en place du crédit impôt recherche, pour l'innovation, parce que lorsque la croissance reviendra, lorsque le déficit sera comblé, la France sera dans les conditions favorables pour garder sa place dans le rang des pays dans le monde qui est la sienne aujourd'hui.
Alors, il va nous rester un petit peu de temps, hein, mais assez court, pour faire un dernier tour de table. Moi, dans ce que j'ai entendu, je suis content. J'entends que dans tous les partis politiques, finalement, on s'attache à essayer de faire augmenter les revenus. Faire baisser les prix, ce serait pas possible. C'est une question que je lance comme ça, voilà, pour un petit dernier tour de table. Marie-Claude Bouissy, ou alors... allez, Thierry Vialon, Front National, non, allez-y.
Mais ça, j'en ai parlé, puisque j'ai dit qu'il fallait réguler les ententes. Par contre, juste, je voudrais revenir sur ce qu'a soulevé Monsieur Picard.
Faites vite, hein, il nous reste peu de temps. Hein,
le fait
minutes.
qu'on relance l'emploi, et qu'il y avait encore des entreprises qui produisaient en France. Ça, je suis d'accord avec lui, mais pour combien de temps? Le problème, il est là. C'est qu'on n'instaure pas, si vous voulez, l'environnement qui permet de garder l'environnement économique, qui permet de garder des entreprises en France. Et quand M. Prouvot parle des grands groupes de luxe, c'est vrai, mais ça, c'est pour l'image. Ça, c'est la façade. Parce que je crois qu'à part Hermès qui produit, où les cuirs sont vraiment tannés en France, le reste, c'est les cuirs, la matière première, elle vient du Moyen-Orient. C'est de l'assemblage ici. C'est qu'une partie finalement infime du travail produit qui est fait en France. Donc, je crois que il faut vraiment, quand je dirais industrialiser, c'est sur toute la chaîne de production ramener des emplois en France, Monsieur, et pas les laisser à l'étranger.
Monsieur Vialon,
est-ce que
vous savez,
Robert Picard, rapidement, hein, on est d'accord.
Monsieur
hein,
Vialon, est-ce que vous savez, puisque vous avez dit tout à l'heure que les machines robotisées venaient de Chine, savez-vous que, puisque nous avons la filière de la pomme, ici, les machines robotisées qui traite ces pommes, elles sont fabriquées par l'entreprise Mavroda, qui emploie 250 personnes à Montauban, et des emplois de haute valeur ajoutée. Alors, il faudrait, si vous voulez faire de la politique et parler de l'économie, il faut que vous soyez au courant de ce qui se
Monsieur,
passe chez vous.
Mais moi, je vais vous dire, venez à Mazamé, et vous verrez la discussion d'un point industriel.
Jean-Jacques Boyer, pour Europe Écologie Les Verts, vous voudriez bien répondre à ma question. On peut les faire baisser, les prix, ou c'est pas possible?
Alors, la question, c'est le dumping, baisser les prix à tout prix du dumping, économiquement, ne peut être en contresens. Hein, la question, c'est remettre de l'économie réelle dans notre système économique, hein, ça a été largement dit, on sait que 97% des transactions financières servent à la finance et ne servent pas à l'économie réelle, c'est-à-dire que seulement 3% servent à l'économie réelle. Dans nos systèmes, c'est bien un des fondements du malaise dans lequel on est, hein, et de la difficulté. Donc, revenir à l'économie réelle, relocaliser. Effectivement, vous savez très bien, les écologistes prennent depuis longtemps le privilège des circuits courts. Quel est le sens d'aller chercher un bien à l'autre bout de la planète? Est-ce qu'on met la réalité des coûts? J'aurais pas le temps de développer, mais je voudrais juste rebondir sur le nucléaire. Quand on nous dit que grâce au nucléaire, on a l'électricité la moins chère du monde, remettons la réalité des coûts derrière et le dernier rapport de la Cour des comptes, un rapport récent l'a montré, ce n'est pas simple. Donc oui, il faut accompagner par des mesures de soutien, par mesures fiscales, l'accès à des besoins fondamentaux comme l'énergie, comme le logement, investir massivement sur le logement pour éviter, notamment sur l'isolation, pour réduire à la fois donc notre empreinte écologique, mais réduire aussi la charge. Donc voilà, ce sont plus des mesures de ce type-là sur lequel il faut travailler, plutôt que dire baisser les prix, tout à venant.
Bah, ça fait baisser les prix du logement et de l'énergie.
Mais c'est pas de manière générale.
Richard Blanco, vous devriez être pour vous faire baisser les prix.
Bah, baisser les prix, bien entendu, et surtout que c'est possible. Hein. Bah, chaque marchandise, elle a une particularité, c'est qu'effectivement, elle a un prix. Et dans ce prix, bah, oui, il y a la valeur du travail, hein. Bon, parce qu'il y a bien des travailleurs qui ont fait en sorte que ce produit se retrouve dans le commerce, hein, mais dans chaque prix, il y a aussi le profit. Hein, donc, bah oui, Nathalie Arthaud, dans le cadre de cette campagne, hein, bah, ce qu'elle défend, c'est la levée, hein, des secrets, de tous les secrets dans cette société, parce qu'il y a l'opacité la plus totale. Hein, il y aurait une transparence totale. Hein, bon, on verrait que dans le prix d'un produit, bah oui, bah, il y a une bonne part qui va en profit. Eh bien oui, pour baisser les prix, il suffirait de faire en sorte que cette fois-ci, hein, ça soit pas sur les salaires qu'on s'en prenne, mais ça soit sur les prix, et on les diminuerait de façon très importante. Mais là aussi, sur cette mesure-là, eh bien nous on dit que cela, il faudra aussi l'arracher par des luttes puissantes, massives et déterminées.
Benjamin Provost.
Moi, je vais être très court, hein, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. On ne décrète pas effectivement la baisse des prix, hélas, ce serait trop simple. Mais comme certaines des mesures que j'ai évoquées, on peut effectivement faire en sorte que mécaniquement les prix baissent, la croissance et la production de richesses par ailleurs augmentant, que le pouvoir d'achat pourrait augmenter. Donc le message est un message d'espoir, il faut évidemment pas céder au pessimisme. Dans la conviction qu'essaye de défendre Nicolas Sarkozy, c'est que la France peut encore faire mieux, beaucoup mieux. Nicolas Sarkozy propose une France forte parce qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour notre pays, qui refuse la facilité, qui refuse de cacher la vérité aux Français. Oui, il faut faire des efforts. D'ailleurs, les efforts paient. Les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure le démontrent. Oui, il faut travailler. Et à cette condition, la France pourra rester maître de son destin.
Damien Hennig pour le PS. Alors, les prix baisseront pas avec la TIPP, mais ils augmenteront pas trop, si j'ai bien compris.
Écoutez, déjà, nous, François Hollande va redresser la France qui a été abîmée depuis 5 ans. Alors, par des propositions, déjà, vous disiez tout à l'heure le monde de la finance. Oui, nous allons nous attaquer au monde de la finance.
Pourquoi vous n'avez pas voté pourquoi les socialistes n'ont-ils pas voté la taxe sur les transactions financières?
Vous êtes exprimé. Votre projet, monsieur Provost, votre projet, c'est votre bilan en pire, d'accord? Votre projet,
c'est la fin.
Donc, il va redresser la France, c'est-à-dire qu'il va faire une croisade contre le monde de la finance.
Une croisade.
C'est-à-dire que les banques vont permettre.
Vous êtes un maître du lapsus là.
Les banques vont financer l'économie réelle. Alors que vous avez accompagné toutes ces banques qui ont spéculé pendant un certain nombre d'années. Et nous allons notamment créer une banque publique d'investissement.
Ça existe déjà, ça s'appelle Oseo.
Oui, attendez.
Excusez-moi, mais monsieur Hollande est un cancre de l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, mais propose tellement de choses qui ont déjà été votées et que lui a refusé de voter, que sincèrement, je lui proposerais quand même de regarder un petit peu.
Heureusement que nous n'avons pas voté les mesures que vous avez mis en place, parce que sinon. Donc, nous créerons une banque publique d'investissement. Nous ferons des PME une priorité. Voilà, puisque les PME n'ont pas été assez soutenues.
On les essaie.
Nous favoriserons la production et l'emploi en France.
N'avez peur de rien.
Nous favoriserons la. Vous permettez, je termine. Nous favoriserons.
Robert Picard. Je voudrais quand même pouvoir dire un mot, oui.
Je vais laisser finir sa phrase.
Donc, je terminerai. Donc, effectivement, nous allons financer les banques, financeront l'économie réelle.
et ne continuerons pas à spéculer comme vous nous reprochez cela. Vous avez accompagné tout cela. Okay. Nous, nous allons balayer ça et nous allons financer l'économie réelle avec les banques serviront à ça et nous allons
Merci
remettre les PME en avant.
Allez, Marie-Claude Bouissy et ensuite Robert Picard, et puis après on va finir.
Non, non, moi j'en reviens toujours à l'augmentation du SMIC et des bas salaires. Je constate que le Front de Gauche est le seul à proposer le SMIC à 1700 euros.
Mais ça, on est d'accord, mais c'est,
oui,
c'est
non,
pas
non,
la
non,
question,
mais...
ma question.
Si,
c'était...
si, non, moi la question, je dis, ça n'est pas tellement faire baisser les prix, parce que l'on encadre les prix de la grande distribution, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il faut poser la question des revenus, et du coût du travail, par exemple, des agriculteurs. Voilà, alors là, effectivement, il y a énormément de choses à revoir. Mais moi, j'en reviens toujours sur la consommation qui va relancer la production et l'économie. Moi, j'y crois, hein, contrairement à vous. Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense aussi qu'il faut réorienter l'argent public, l'argent des banques, par la nationalisation d'un certain nombre de banques, de manière à créer un pôle financier public qui servira à l'investissement et qui aidera les petites entreprises. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut faire la différence entre les grandes et les petites entreprises. Comment permettre aux petites entreprises de pouvoir, entre autres, augmenter le SMIC? Je fais la différence entre les grandes entreprises qui font des profits fabuleux, auquel cas on tape dedans, on prend sur les profits qui vont dans la poche des actionnaires sans problème. Pour les toutes petites, les petites et moyennes entreprises, c'est différent. Il va falloir les aider sur un certain nombre de choses, en particulier par un pôle financier public, qui permettra de sortir ces petites entreprises des griffes des marchés financiers. On en retombe toujours à la même question et je constate que le Front de Gauche est celui qui va le plus loin dans cette attaque, cette remise en cause des marchés financiers. Et je voulais dire aussi tout à l'heure, puisqu'on parlait de questions...
On arrive au bout.
Puisqu'on parlait de questions de gouvernement, je dois dire que vu tout ce qui nous sépare du PS et en particulier des choses essentielles comme les traités européens, Nous remettons en cause les traités européens, que je sache, le Parti socialiste.
Non,
ne
mais
fait
là,
pas.
On part sur autre chose.
Je le dis quand même. Et la question de l'austérité que nous refusons. Donc, pour l'instant, nous sommes très loin les autres.
On arrive au bout de cette
émission. Ben, c'est pas normal, hein.
Vous l'avez eu.
Écoutez, non, je l'ai pas eu. Non, je voulais dire que nous, au Modem, notre culture, c'est la culture rugby. Quand on se présente sur un terrain de rugby, ça n'est pas pour se dégonfler et dire en face ils sont trop forts. Ça n'est pas...
C'est bien comme mot de la fin, ça. Voilà. C'est bien comme mot de la fin, Robert Picard, pour le Modem. Merci.
Et ça n'est pas non plus...
Merci à vous tous
pour dire on va
venus
pendant cette on va changer les règles avant de rentrer sur le terrain.
Consacrée à l'élection présidentielle, ça a au moins un intérêt, c'est qu'effectivement l'auditeur, parce que je vous rappelle qu'à quelques jours de l'élection présidentielle, il y a encore 26% qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Et je pense qu'en vous réunissant une fois de temps en temps ici dans ces studios, ça permet d'avoir comme ça un rapide tour d'horizon des avis des uns et des autres. Et je pense que c'est nourrissant pour ceux qui iront aux urnes ce dimanche. Merci à vous et à bientôt.
Merci.
Merci.